en quête d'humanité. Nous sommes à l'automne 2019. La pandémie n'est pas encore dans le corps et la tête des gens. Mais le monde ne va pas bien pour autant.
On radiographie un peu tous les êtres humains. Il n'y a pas beaucoup qui sont adultes finalement.
La société, c'est jamais que les rapports que les gens choisissent d'avoir entre eux. Ce ne sont pas toujours des choix percutants.
C'est à cette période que chacun, dans son parcours de vie, a ressenti le besoin d'aller au-devant d'autres personnes, recueillir des réponses.
Je ne sais pas que je cherche une vie sans combat, mais je ne cherche pas une vie de colère et de rébellion. Je cherche une vie constructive.
Je suis ce qu'on pourrait dire un pessimiste joyeux.
Ce qui me définit aujourd'hui le plus, c'est l'amour.
Moi, je trouve que la curiosité est un bon moteur.
Ils ont parlé de moi à d'autres personnes en disant « on connaît un chaman ».
Waouh ! Est-ce que dans un an, je vais encore voir toute cette beauté ?
C'est dans les vallées du Couserans, à l'ouest du département de l'Ariège, que nous rencontrons 15 habitants de ce territoire montagneux. De la notion d'humanité au sens que chacun donne à la vie, une quête de réponse unique et sincère.
Moi, j'ai confiance en ce qui va se passer, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais j'ai confiance.
Je préférerais danser pour le sens de la vie que me battre ou lutter.
Une série en 8 épisodes. Deuxième épisode, dans la vallée du Biros.
Eh bien, bonjour, je m'appelle Anselme. Aujourd'hui, j'habite à Balassé, et ce petit village au fond de la vallée du Biros, à 900 mètres d'altitude, et j'ai grandi à 4 km un peu plus loin, en Thrace. Et ça fait 6 ans que je vis ici aujourd'hui. J'ai grandi dans la vallée depuis toujours. Une chose est sûre, c'est que oui, c'est ce qui a fait mon histoire, hein, de grandir là, avec des populations assez variées, des gens d'un peu tous les horizons qui se retrouvent ici dans la vallée. Plus les ariégeois de souche, en effet. Donc ça fait un sacré mélange. Et souvent, les gens viennent ici pour quitter un autre univers, ce qui n'est pas mon cas, vu que je n'avais pas vraiment choisi d'être ici à la base. Avec le temps, j'ai fait quelques voyages et finalement, je me suis dit que c'était encore un des meilleurs endroits où passer le restant de sa vie. La plupart des gens qui viennent ici ont envie de quitter très souvent la ville, l'univers dans lequel ils ont grandi. Ce qui les ramène ici, c'est souvent avant tout la nature, un espace où il y a un peu plus de liberté qu'ailleurs. On est à la fois oublié un peu du reste de la France, vu que c'est reculé, mais ça a des avantages et des inconvénients. Du coup, on a aussi plus de liberté et d'espace. Beaucoup de gens aussi ici sont asociaux dans le bon sens du terme, c'est qu'ils ne supportent plus du tout la société dans laquelle on est aujourd'hui. Et du coup, ici, ils peuvent s'exprimer autrement. Peut-être qu'ailleurs, certains seraient enfermés. Mais ici, ils ont une place pour leur folie et elle est acceptée. Ils ont la place pour ça. Déjà, quand on grandit dans cette vallée, on a la sensation d'avoir de l'importance, pas forcément pour le reste du monde, mais que ce qu'on fait a un impact, ça se voit toujours. Quand ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on partage, on est tellement peu que les personnes autour en tiennent toujours compte, il y a toujours une réaction, on n'est pas noyé dans la foule, donc peut-être on se sent aussi plus responsable. J'ai l'impression qu'on maîtrise un peu notre univers. C'est exagéré de dire ça, mais je pense qu'on a prise sur ce qui nous entoure.
Plus responsable vis-à-vis de quoi ou de qui ?
Ça, c'est peut-être personnel, mais je pense qu'aujourd'hui, on est tous concernés par rapport à la course du monde. Ouais, quand même. Qui va de mal en pis pour nous tous.
Et quand tu parles de maîtriser son univers, qu'est-ce que ça veut dire ?
Il y aurait plein d'exemples, mais des choses simples, hein, c'est que dès qu'on fait quelque chose, que ce soit du bénévolat au sein d'un village, sur l'entretien, sur l'embellissement, il y a tout de suite un résultat visible. Si on crée une activité ou autre, ça change tout de suite la donne dans un village. Quelqu'un ouvre une boulangerie, quelqu'un ouvre un bistrot. D'un seul coup, le quotidien des gens s'en trouve changé et ça a un impact direct.
toi, comment tu définis être humain, cette notion d'humanité?
Personnellement, je me sens très humain. Ce qui fait la différence, on dit toujours, entre les humains et les bêtes, c'est d'être un minimum civilisé. Alors, dans la civilisation, il y a des choses terribles. La nôtre semble parfois toucher à sa fin. L'humain a passé son temps à créer des choses terribles. Mais dans ce cas-là, si on garde ce qu'il y a eu de meilleur au cours des siècles, oui, c'est ce qui fait de nous des humains. Alors, qu'est-ce qui fait qui est bon, foncièrement bon dans l'humain? quand on est dans le partage et dans le respect, mais ce qui se fait assez rare. On peut penser que c'est les animaux sont peut-être altruistes parfois, mais ouais, la notion d'humanité, c'est peut-être chrétien hein, du coup là, et c'est pas mon cas, de faire attention à ce qui nous entoure, d'avoir une conscience pour ça.
La notion de partage, tu disais, il se fait rare. Tu sens ça ici aujourd'hui dans cette vallée?
Je le ressens parce que je me tiens à l'écoute de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Mais dans cette vallée en particulier, elle est peuplée d'êtres humains, même s'ils sont un peu plus fous qu'ailleurs. Du coup, ouais, l'égoïsme est présent comme partout, hein, et on a tous cette part-là en nous. Je pense qu'on est un peu épargné par rapport à d'autres endroits du monde. Mais faut faire attention, c'est. On peut tous tomber dans le piège très rapidement.
Et qu'est-ce qui ferait justement que vous seriez épargné ici?
Je suis pas si sûr qu'on en soit épargné, j'en ai peur. Vraiment, parce qu'il y a quand même, je le vois, beaucoup d'égoïsme. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'on était en sécurité, à l'abri, parce qu'on pourrait toujours se débrouiller, être autonome. Et je sens que c'est de plus en plus fragile, ça, avec la notion de réfugié climatique ou autre. Alors, c'est pas la peur et l'envie de construire des murs ou des frontières, mais en fait, si le restant de la planète va mal, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont finir par arriver ici. On a beaucoup de ressources qui permettraient d'être quasiment autonomes, en fait. Les populations locales l'ont longtemps été. Je me dis qu'un jour, on va être beaucoup plus. Les gens vont avoir tendance à quitter les villes ou simplement des endroits où il n'y a plus d'eau ou autre et vont venir ici. Alors, et c'est là qu'il faudra savoir encore partager. Ouais. Les gens vont se rabattre là où ce sera encore vivable. Oui, ça me fait bizarre de dire ça aussi froidement, mais c'est quelque chose qui me préoccupe. Donc, je pense que les années à venir seront difficiles.
Cette notion d'accueil ou de partage, elle te paraît compromise?
Eh bien, à commencer par moi, je vois très vite, dès qu'on est dans l'agriculture, les petites guerres qu'il peut y avoir, même dans nos petites communes qui peuvent paraître un paradis au premier coup d'œil. Des fois, on a vite fait de s'engueuler avec un voisin pour quelques centaines de mètres carrés. Et donc, si beaucoup de gens viennent s'installer ici, oui, il va falloir penser à partager. Et en même temps, c'est un devoir, parce que si on se met à la place des autres, je crois qu'on ferait pareil. On quitterait nos pays s'ils deviennent invivables. Et en plus de ça, alors il faudra partager, donc vivre plus simplement, mais ces vallées ont accueilli beaucoup plus d'habitants. Donc elles sont capables de nourrir quelques centaines de personnes en plus. Aujourd'hui, en hiver, on doit être 300 personnes à peu près. Ils sont montés à plus d'un millier il y a 150 ans de ça. Donc on peut nourrir du monde, loger du monde. Il y a beaucoup de maisons vides, il faut juste avoir la volonté de leur faire de la place.
Et justement, comment toi, dans cette évolution, tu apportes ta pierre? Comment tu y participes ou y participerais si quelque chose de ce dont tu viens de parler pouvait arriver?
J'espère être à la hauteur si ça doit se présenter, mais comme je disais, hein, on est tous relativement égoïstes, il faut faire très attention. De quelle manière? En essayant de ne pas occuper plus de place que celle dont j'ai besoin pour vivre. Il y a justement, je disais, plein de logements vides. Il faut aider la politique locale à ce que ces choses-là se débloquent aussi. Donc il y a beaucoup de gens qui s'installent de manière illégale, on va dire, dans la montagne en ce moment. C'est quelque chose que je soutiens, même si voilà, la loi n'est pas pour nous, mais c'est quand on peut encourager, si les gens sont heureux de vivre ici et qu'ils y trouvent leur équilibre, oui. Donc c'est à travers des échanges de savoir, des coups de main, différentes choses, mais tant que possible et avec le temps qu'on a, on essaye d'aider ceux qui arrivent.
C'est ça aussi l'humanité ?
En partie. Oui. Je sais pas si ça se résume à ça, mais ça en fait partie. Je participe à la vie de la commune, je suis élu à la commune aussi, donc je fais partie du conseil municipal, où on essaye de développer ce qu'on peut, mais on est la plus petite commune quasiment du Couserans, donc avec un budget ridicule. On a créé une association de village où là par contre on fait du bénévolat, on a créé une laverie sur la commune, une laverie collective, différentes choses comme ça. Puis ici on développe aussi notre propre projet, donc on a quelques ruches, un jardin par là. J'aimerais prendre 2 vaches, puis on fait grandir nos enfants surtout en ce moment, on n'avance pas très vite.
Si la vie a du sens pour toi, quel sens tu donnerais ?
La question me préoccupe régulièrement. Il y a des jours, je me demande si elle n'a pas juste le sens de nous faire accepter notre mort. C'est un parcours pour aller vers ça. En dehors de ça, sur Terre, rien ne nous prouve que la vie a un sens. Il y en a qui essayent de nous le faire croire, mais à part, je me dis, quitte à être là, soyons heureux, sinon autant aller se pendre et c'est réglé. Je veux dire, aujourd'hui, je connais beaucoup de gens qui ne veulent pas faire d'enfants parce que le futur est très incertain. C'est pas mon cas, je me dis, tant qu'on est là, on fait des choses et on va de l'avant. Et puis si ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter, de toute façon, tout s'arrête. Et nous avec. Pas de sens. Je ne préfère pas donner de réponse définitive à cette question, non. Non. La vie. Il y a trop de mystères autour de ça pour pouvoir répondre. L'interrogation, elle dure depuis quelques dizaines de milliers d'années pour les humains et on a cru avoir trouvé la réponse, mais en fait, on patine tous toujours autant comme au premier jour. Donc, ça fait partie de notre lot que d'accepter de vivre sans avoir cette réponse-là et qui sans doute peut-être tuerait toute la magie si on l'avait.
Si quelqu'un était en quête de sens et te demandait
que faire de sa vie,
lui apporter une réponse, qu'est-ce que tu lui répondrais ?
Qu'est-ce que je répondrais à quelqu'un en quête de sens ? Qui prenne le temps de s'écouter, qui réfléchisse à ses rêves de jeunesse. Bien souvent, l'essentiel pour être heureux, c'est de réaliser cela, je trouve. Pour la plupart des gens, ils finissent par s'oublier au cours de la vie, parce qu'on est tous happés par l'engrenage de nos sociétés, et on n'a plus le temps de penser à ce qu'on aimerait réellement faire. J'en avais beaucoup, mais il y en a beaucoup qui se sont évanouis avec le temps, qui se sont simplement évaporés parce qu'ils n'ont plus autant de sens pour moi, c'est vrai. Par chance, la vie, je sais pas, quand même, nous apprend certaines choses, donc j'ai malgré tout, je crois, moins d'ego et d'orgueil. J'aurais aimé être une rockstar.
T'aurais voulu être un arrêté.
Aujourd'hui, je pense que je ne souhaite plus du tout être une rockstar. Par contre, j'aimerais aboutir un projet en musique, chose que je ne fais pas du tout actuellement. J'ai d'autres choses qui me rendent heureux, mais c'est le point sur lequel j'aimerais revenir plus tard, aboutir à un projet musical. Pourquoi les gens mettent-ils leurs rêves de côté ? Je pense qu'on est vraiment happé par le quotidien. Il y a un moment où on cherche déjà de quoi vivre, trouver sa place, et les personnes qui peuvent trouver leur place en exerçant leurs passions, leurs envies, sont rares. Donc après, on est vraiment pris dans un quotidien qui est très très dur à rompre. du coup, on est embarqué sur d'autres choses. Ouais, les rêves existent, mais on finit par les oublier les années passant. J'ai choisi de faire ma vie ici et je m'y plais. Et je pense pas en bouger avant très longtemps. Du coup, j'essaye simplement d'accueillir ceux qui souhaiteraient venir vivre ici, de les aider à s'installer et de faire les choses correctement autour de moi. Je peux pas faire beaucoup plus. Dans ce fond de vallée, on essaye d'encourager au niveau local à l'écologie. Sur la commune, on a passé des arrêtés anti-pesticides. On fait ce qu'on peut, mais c'est des mesures très symboliques. On n'est pas dans des plaines céréalières non plus. À notre échelle, aujourd'hui, tout est terrible parce que les compétences des communes, de toute façon, sont déplacées aux communautés de communes. Donc, bientôt, on va être des enveloppes vides avec aucun pouvoir sur place. L'eau est gérée par des syndicats. Donc, dans un premier temps, c'est les syndicats, la communauté de communes qui les gèrent. Et bientôt, ils pourront revendre ça, le privatiser, et on sera tous soumis à l'eau en bouteille, tout aura un prix.
Est-ce que tu penses que, à terme, plus ou moins long, les choses pourraient justement se renverser? C'est-à-dire que c'est pas inéluctable d'aller vers ce monde un peu catastrophique, entre guillemets?
À ce jour, par rapport à cette question-là, j'ai une idée bien précise. Je crois qu'on ne peut pas éviter un minimum de catastrophes. Je pense que là, on est lancé, ça ne s'arrêtera pas sans casse. J'ose espérer que, après ça, il y aurait quelque chose de possible et qu'il restera des personnes chouettes après. Je sais pas, j'ai pas envie de nommer ça catastrophe, mais ça risque de pas être drôle à certains endroits.
Est-ce qu'aujourd'hui, Anselme, tu te sens heureux?
Oui, comme je disais tout à l'heure, vraiment, je m'occupe, ça c'est une des clés du bonheur, de s'occuper de ce qui se passe au jour le jour. Et puis j'ai plein de passions, plein d'ambitions, je sais pas si l'ambition est quelque chose qu'il faut cultiver, mais il en faut un minimum pour avoir des envies sans doute. Oui, j'estime être heureux, je suis pessimiste pour l'avenir des gens, le mien, ma foi, j'espère ne pas trop souffrir, mais et mes proches non plus, mais sinon, je suis plutôt heureux d'être là.
Et s'il y a quelque chose dont il ne faut pas que tu t'éloignes, ce serait quoi?
Dans un premier temps, mes enfants tant qu'ils ont besoin de moi, après...
T'as l'entière liberté de dire ou de montrer ou enfin voilà, tout est possible. Une chose, une parole, de la musique peut-être, en tout cas quelque chose qui te définit, toi, tel que tu es aujourd'hui.
Si je savais encore chanter une chanson correctement, j'aurais probablement choisi... la traduction française, pour qu'on se comprenne tous, la version française de la chanson de Leonard Cohen qui s'appelle Everybody Knows. Et du coup, Grimold White en a fait une adaptation française qui s'appelle Tout le monde le sait et qui résumerait ma pensée du moment. Elle est assez longue, je la connais pas par cœur, je pense, mais je peux essayer. Tout le monde sait que les dés sont pipés. Tout le monde roule avec les doigts croisés. Tout le monde sait que le bateau coule. Tout le monde sait que le capitaine a menti. Tout le monde, emporté par la houle de désespoir sombre dans l'oubli. Tout le monde le sait. C'est le premier couplet. Il y en a d'autres tout aussi terribles. Je n'ai rien à ajouter, je crois, pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Merci.
donc je m'appelle Nelly Bory, j'ai 60 ans et j'habite à Ely, en Ariège, depuis 2003. Je suis originaire du Lot. Je travaille dans une caisse de retraite complémentaire, dans de l'administratif. Je souffrais d'être en ville, voilà. J'ai pensé à m'installer, à être apicultrice, mais arrivé ici, en fait, le premier obstacle, ça a été, j'aurais voulu acheter quelque chose, mais l'immobilier n'était pas à vendre, les terres encore moins. Donc le premier obstacle, c'est que je ne pouvais rien acheter. On a dit, ben sinon, on va essayer de développer le gîte d'étape, et puis on va voir, on va peut-être y arriver, à dégager un petit salaire. Alors au début, j'ai fait un peu d'aide à domicile aussi, parce qu'il y avait des gens âgés et qui ont eu besoin d'aide à un moment donné. Pendant 2 ans, j'ai fait ça, et j'ai trouvé ça formidable. J'ai rencontré un monsieur vraiment qui avait l'âge de mon père, qui avait la maladie de Parkinson. Et en fait, on est tombé vraiment en amitié. Ça a été des moments partagés formidables avec lui. Voilà. Mais en même temps, j'ai travaillé un peu aussi au gîte d'étape. J'ai des Claude. Et puis, petit à petit, je suis devenue salariée du gîte d'étape. Une reconversion.
Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé ici? Qu'est-ce qui t'a fait rester ici? Qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Qu'est-ce qui s'est passé avec
Moi, je me suis retrouvée, voilà, vivre dehors. C'est mon truc, en pleine nature, être à la montagne, c'est mon truc, quoi. Je suis née là-dedans et j'ai retrouvé ça, ce bonheur d'être dehors. Et après aussi, de créer beaucoup de choses, de vraiment prendre son destin en main et d'avancer, de dire, bon, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant de tes 10 doigts? Quand vous êtes dans une grosse entreprise, ben vous subissez tout, hein, vous êtes là-dedans, et puis vous êtes embarqué, ça vous plaît pas, bon, ben c'est pareil, quoi. Tandis qu'ici, ben, il va falloir se débrouiller, se relever les manches, et s'y mettre, quoi. Et ça, c'est génial, quoi, j'adore.
Oui, je reviens sur ce que tu disais, ça veut dire quoi, vivre dehors?
En fait, toute ma partie de vie citadine, je me suis sentie enfermée, dans un appartement, dans un bureau, dans la ville. C'est pas mon élément. Je ne pensais qu'à une chose, le week-end et partir. Ouais.
Donc du coup, ici, tu te sens pas enfermée, c'est ça?
Ah, pas du tout.
Vivre dehors, c'est...
Oui, je me sens libre, très libre. Toutes les choses me profitent, je sais pas, tout ce qui m'entoure me plaît. Ça me fait du bien, quoi. Je me sens vraiment à ma place, en fait.
Qu'est-ce que tu me dirais par rapport à la notion d'humanité?
Pour moi, l'humanité, ce serait le rapport et l'échange. C'est-à-dire le rapport avec l'autre. Et échanger, oui, avec cette personne, ce qu'elle peut nous apporter, ce qu'on peut lui apporter, ce qu'on peut faire ensemble pour avancer dans la vie, vivre vraiment, être à l'écoute des gens qui nous sont proches, les plus proches.
L'autre, c'est qui? Ça peut être qui?
Eh bien, ça peut être les gens qui m'entourent. Bon, avec Claude, on a beaucoup parlé, on avait chacun de notre côté des choses à guérir. On s'est beaucoup écouté et on a beaucoup travaillé, parce que ce changement de vie, c'est quand même un gros morceau aussi. Et donc, il y avait beaucoup de choses à comprendre et beaucoup de choses à décider et à accepter, et des choix à prendre et les accepter et les assumer. Et ensuite, ça peut être aussi les autres, c'était les personnes qui vivaient ici, et c'était aussi ma famille, du coup, qui s'est un peu éloignée. Et puis sur le plan professionnel, bon, déjà cette rencontre avec les gens âgés, là, quand j'ai fait un peu d'aide à domicile pendant 1 ou 2 ans, il y avait un monsieur ici qui a une maladie et que j'ai aidé à se lever, des petites choses comme ça. Mais pour lui, c'était une maladie incurable, il le savait, et il avait son regard là-dessus, et il m'a mené aussi là-dedans, cette simplicité des choses, de certains actes à faire, et l'acceptation d'une vie qui s'est déroulée, d'une fin et tout ça. Enfin, vraiment, c'était vraiment des rapports très riches. Et après, sur le plan professionnel, au niveau des rencontres que l'on peut faire avec les randonneurs, qui sont de passage en fait. Des gens, ils passent, ils dorment une nuit, ils repartent, des Français, des étrangers, et ça, c'est très riche aussi.
Est-ce que ça peut être l'autre dans un sens inconditionnel ?
Je sais pas, je pense que j'ai mes limites aussi. oui, j'essaie de ne pas avoir trop d'a priori, mais après j'ai mes propres limites aussi. Dans un premier temps, je fais attention de bien être ouverte et de pas avoir voilà de choses bien définies, parce que la première apparence ou le premier moment peut être trompeur, et c'est intéressant parfois d'aller plus loin. Donc oui, mais après à voir. Après, si quelque chose va être néfaste ou négatif, je vais pas insister. Ben voilà, une ouverture, c'est super intéressant, comprendre comment la personne fonctionne, etc. Mais après, aller peut-être plus loin, c'est pas souhaitable, voilà, pour personne, mais il faut, c'est au fur et à mesure que ça se découvre. Ouais.
Ma question, c'est en quoi c'est important, finalement, ce positionnement-là par rapport à l'autre?
Ben parce que je pense qu'on quelque part on s'étalonne aussi par rapport à cet échange et par rapport à cette autre personne. On se dit ben moi comment j'aurais fait, comment j'agirais, est-ce que j'aurais réussi à aller aussi loin ou pas. Ça permet de mieux se connaître soi aussi, je pense.
Nelly, du monde dans lequel on vit aujourd'hui, est-ce que tu le sens évoluer? Et si oui, dans quel sens? Comment tu ressens ce qui se passe dans le monde aujourd'hui?
Comme on habite ici, on est dans un milieu assez reculé, dans un lieu assez reculé. Et par le fait, on a aussi du recul sur les choses. Et surtout, on a le temps d'y penser et de réfléchir. Par rapport à ma vie d'avant, on va dire entre guillemets, où moi aussi j'étais embarquée, quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit, oulala, que j'ai vu les gens, je me suis dit, mais jamais je ferais comme eux, quoi. Et puis au bout de 3-4 mois, je faisais pareil, quoi. Vous pensez résister aux choses, mais vous n'y résistez pas, vous êtes pris dans un mécanisme, et puis vous y allez, vous suivez, vous n'avez pas le temps de réfléchir vraiment, je trouve. Ici, on a le temps de se poser et de réfléchir, et par rapport à nos clients qui sont en vacances, et qui arrivent ici et qui sont vraiment stressés, quoi. Il y a aussi des interrogations. Bon, il y a tous les gens qui se disent, ah oui, vous vivez là. Il y a ce côté qui les interpelle. Comment vous faites? Vous habitez là toute l'année? Ah oui, c'est, et vous y arrivez. Et alors vous travaillez 4 mois? Ah oui, seulement, vraiment 4 mois. Enfin, ça les interpelle. Et eux, ils se disent, oui, mais c'est vrai, je suis pas bien dans ma vie, mais est-ce que je pourrais tout lâcher aussi à un moment donné et vivre une vie plus paisible et vivre une vie vraiment, avoir le temps de la vivre. Oui, c'est des choses qui reviennent très très souvent dans les discussions.
Est-ce que tu penses que le territoire, le lieu où tu vis, la façon dont tu vis, agit sur ta personne
en fait? Oui, moi je le pense. Je le pense, oui. Je pense que le milieu urbain, il comprime les gens. Et où vous êtes trop nombreux dans un lieu où il y a trop de promiscuité. Vous obéissez à tellement de règles, vous n'avez pas le choix, quoi. Vous êtes vraiment dans des lieux. Peut-être que j'aurais vécu dans le Lot, mais peut-être que je serais aussi comme ça. Un milieu rural, vraiment, oui, ça me convient beaucoup plus. On ne fait rien pour nous à notre place ici. Parce qu'on est isolé, on vit seul ici, et donc on doit faire tout par nous-mêmes. Et donc on est obligé ben, de créer, ou d'inventer, ou de se débrouiller avec. Et je trouve que dans le milieu rural, où mes parents étaient agriculteurs, ben, ils se sont toujours débrouillés avec ce qu'ils ont eu. Et ben, si un jour ils avaient raté leur récolte, ou raté leur élevage, et ben, il fallait avancer quand même, et ben, différemment, trouver d'autres façons. Voilà, on se débrouille, mais parce que on a aussi la possibilité. On a une terre où on peut faire, on peut semer quelque chose, on va récolter quelque chose, ou on a un élément. Quand vous êtes dans une ville où il n'y a que du béton et des trottoirs, ça va être plus limité, quoi, je veux dire, ou et je sais pas, il me semble que c'est plus facile ici, et où vraiment vous pouvez plus vous exprimer individuellement. Thank you.
Je reviens à ce que je te demandais par rapport au monde qui évolue.
Oui.
Et la façon dont tu sens qu'il évolue, ça te touche comment ?
C'est vrai que c'est difficile à dire, mais je trouve que le monde, il est mené par l'argent. Et que ça, c'est vraiment triste, quoi. Parce que l'argent, c'est un peu comme certains médicaments. Hein. Ça va cacher la douleur, mais la maladie, elle est toujours là. Et avec l'argent, vous réparez un truc immédiat, vous payez pour pouvoir polluer ou des choses comme ça, mais vous ne réglez pas le problème de la pollution, quoi. Comme on est dans ce monde capitaliste, qu'il faut toujours consommer, eh ben ça me rend un peu triste, quoi. Ça me rend un peu triste et je pense que ce système, il est quand même, il arrive un peu à ses limites.
Tu penses que quelque chose peut changer, se transformer ?
Ici, on a la chance de voir beaucoup de jeunes qui viennent et qui tentent de vivre différemment. Des jeunes qui ont fait des grandes écoles, qui sont diplômés, qui se réfléchissent et qui se disent, ouais, c'est vrai, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avoir une belle vie? Parce que les gens, ils se disent plutôt, qu'est-ce que je vais faire pour avoir un beau métier? Mais c'est pas forcément une belle vie. Je trouve que ça, c'est intéressant comme démarche.
Ça te rend optimiste?
Oui. Ça me rend optimiste. Ça me fait plaisir d'être dans un lieu, ici en Ariège, où on fait toujours de belles rencontres avec des jeunes qui sont pleins d'espoir et qui tentent des choses. Et je me dis, même si ils arrivent pas, mais au moins ils auront cette richesse et de l'avoir tenté très jeune. Parce que moi j'ai attendu d'avoir 40 ans pour le faire, et je me dis aujourd'hui, c'était pas si vieux que ça, quoi, finalement. Mais il y en a beaucoup plus jeunes, quoi, de 25 ans, 28 ans, et ça, c'est vraiment chouette, et ça me rend optimiste.
Est-ce que tu donnes du sens à la vie ? Enfin, quel sens tu donnes à la vie ? Si tu lui donnes un sens.
Ouais, quel est le sens que je donne à la vie ? C'est vrai que ça, c'est une question complexe. Je pense qu'il faut essayer d'être heureux. Et pour être heureux, il faut arriver déjà à s'aimer soi, à se connaître et à renvoyer cet amour vers d'autres gens. Pour ça, ça demande d'être bien installé, d'avoir ses pieds bien accrochés sur la terre. Quand je fais un truc, je me sens légère, je me dis vraiment, je me sens bien, et souvent j'y pense, je me dis c'est positif, quoi, c'est le vrai sens de la vie, c'est de se sentir léger, de se sentir bien où l'on est, et d'avoir envie aussi de le partager avec d'autres.
Et tu te sens heureuse ?
Oui. Je suis heureuse de me lever le matin, je vois, je me dis, tiens, c'est une belle journée, même si elle est pas belle, je me dis qu'elle sera sûrement meilleure demain, et d'avoir plein de projets dans la journée.
La question, c'était plutôt, est-ce que la vie
a un sens,
du sens pour toi?
La vie, à quoi elle sert? Bien sûr, c'est un passage, mais j'ai pas les réponses, en fait. Ce passage-là, qu'il soit le plus léger possible, que ce soit pas une déprime, quoi, que ce soit, autant le prendre pour le mieux. Mais quel est le sens réel, je ne sais pas. J'ai pas la réponse. Je suis pas croyante, on va dire. Donc, mais il y a des choses qui m'interpellent quand même. Est-ce qu'il y a un sens? Oui, c'est vrai que ça, c'est une grande question.
Par exemple, tu vois, si quelqu'un venait, était en recherche de ce sens, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je lui dirais que je n'ai pas la réponse. Je pense que s'il est possible, on peut réfléchir ensemble, on peut se poser des questions ensemble et essayer de voir quelle réponse il peut apporter et quelle réponse moi je peux apporter. Voilà.
Est-ce que tu as un rêve, Nelly ?
Est-ce que j'ai un rêve ? Non, je suis bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Ça va, j'ai pas de rêve, non. Enfin, pas de rêve. Pas quelque chose dont je rêverais qui serait inaccessible. Non, il me semble que tout va bien.
Est-ce que tu sens que tu participes à ce mouvement ? Et si tu y participes, quelle est ta contribution ?
Je ne sais pas trop jusqu'à quel point j'y contribue, mais c'est des personnes que j'aime bien rencontrer et discuter avec eux. Comment est leur projet, comment ils s'en sortent, parler avec eux de leur projet. Je pense que déjà, d'avoir un regard bienveillant, c'est déjà bien. Parce que c'est des personnes qui sont pas vraiment toujours accueillies avec bienveillance. Je pense que de pas avoir d'a priori et de leur parler et de lui dire ben c'est une bonne idée ce que tu fais et puis j'achète leurs produits, je leur en fais la promotion et je parle d'eux autour de moi.
Alors maintenant la question c'est s'il y a une chose dont il ne faudrait pas que tu t'éloignes, dont il ne faut pas que tu t'éloignes, ce serait laquelle?
Je sais pas de quoi je dois pas m'éloigner. Ben oui, c'est surtout sur soi-même parce que en fait la vie elle est égoïste. Enfin, je veux dire, on est toujours positionné en tant qu'individu, toujours recadré aussi ses façons de voir, ses façons de penser et toujours s'adapter parce que autour de soi, ben les choses sont différentes et il faut toujours re-réfléchir. Moi, je voyais les choses dans un sens et puis j'ai changé, je les vois différemment et toujours s'adapter quand même. Je pense que ça, c'est vraiment être vigilant, de pas être dans quelque chose de confortable et de se dire tant pis autour de moi, tant pis, non. Toujours se rassembler sur soi. Sur soi dans le sens où on peut voir différemment. Et toujours se dit bon, on a toujours fait dans un sens jusqu'à présent, mais peut-être il faudra faire autrement, ben il faudra l'accepter, quoi. Pas me mettre dans une coquille et m'endormir, ça viendra, mais je suis pas pressée.
Donc en un mot, s'il y avait un seul mot, ça serait quoi?
J'allais dire, ça aurait été pompeux si je disais l'intelligence, la vivacité ou la réflexion ou la remise en question. Des choses comme ça. Toujours dire, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai bien... toujours un travail sur soi. Rien n'est jamais gagné. Au contraire, toujours découvrir des nouvelles possibilités en soi. Qu'est-ce qui me définirait le mieux? La montagne, je sais pas. Bon, j'aime beaucoup la montagne et la randonnée. Est-ce que ça me définirait la rencontre avec les gens? En fait, j'aime beaucoup le travail que je fais ici. Je me sens libre. Voilà, je me sens vachement bien et libre. Dans ma vie active, dans ma vie privée, dans ma vie amoureuse, je me sens vachement bien. Et alors du coup, pour trouver un mot à ça, ben c'est le bleu du ciel, on va dire.
Je te remercie, Nelly.
Et ben avec plaisir.
Merci à Maria, Bart, Marie-Hélène, Michel, Alain, Marion, Claude, Méline, Anselme, Nelly, Pierre, Jala, Yves, Karine et Marc.
Merci à Jean-François, Thierry pour leur participation musicale.
En quête d'humanité, une collecte de paroles par Marie Chandelon et Christian Lebon. Prise de son, montage et réalisation, Christian Lebon.